de la courroie de transmission, puisqu'il va être question ce matin dans le message que j'ai à cœur de partager avec vous, aussi de cette transmission, notamment par le biais de la prière. Voilà, vous avez certainement lu une tonne de livres sur la prière. Vous avez certainement entendu une ribambelle de prédications sur la prière. On n'enseigne jamais assez sur la prière, tout comme on ne prie jamais assez. Et tous, on se sent petit dès lors qu'on mentionne cet immense monde qu'est la prière. Et peut-être que plus que se sentir petit, tout de suite on se sent coupable de quelque chose. On se sent coupable de ne pas suffisamment prier. On se sent coupable de ne pas suffisamment être à l'écoute. On se sent coupable dès lors que nous sommes renvoyés à ce ministère crucial de la vie d'une église que celui de la prière. Si je me suis laissé conduire sur ce sentier, ce n'est pas parce que je serais un expert de la prière. Je crois que je pourrais dire que ma vie de prière est peut-être plus insatisfaisante que satisfaisante. Peut-être plus parfois aride que florissante. Je vous avais déjà partagé peut-être cette expérience douloureuse d'un temps de ma vie où la prière se résumait, mais c'est un temps que j'ai aimé quand même s'il était douloureux, à cette parole « Tu es là au cœur de ma vie et c'est toi qui me fais vivre ». Je ne sais pas si vous vivez cette expérience quand vos mots semble ne plus signifier quelque chose. Quand ce que vous voulez dire au Seigneur vous semble fade, vide, quand vous ne savez plus comment articuler vos phrases. Je ne sais pas si vous vivez cette expérience qu'alors ce qui jaillit en vous, c'est souvent des choses que vous avez intégrées au commencement de votre vie avec le Seigneur. Pour moi, c'était les chants que me chantaient mes parents remplis de sur les ailes de la foi. Jésus est au milieu de vous. Son regard s'abaisse sur vous. Sa douce voix, l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, mon sauveur, garde-moi. Ou lave-moi par le sang de l'agneau. Il y a comme ça en nous des paroles que nous chantons. Mais qui sont peut-être des paroles avant d'être chantées qui ont été des prières. Et nous prions les prières qui nous ont été transmises sans parfois s'en rendre compte. Et dans notre tradition évangélique, où toute prière transmise, rédigée, qui peut paraître moins spontanée, semble ne pas correspondre à certaines images qu'on peut se faire de la vie de l'esprit, j'aimerais dire que plus que nous ne le pensons, plus que nous ne le croyons, beaucoup de nos prières relèvent d'une transmission. Certainement celle de l'Esprit de Dieu, mais pas que. Celle aussi de nos pères, de nos mères dans la foi, de nos frères, de nos sœurs dans la foi. Et puis aussi de nos représentations de ce qui est Dieu et de ce qu'il entend de nous. Alors j'entre en toute humilité dans cette méditation ce matin parce que tout simplement nous avons commencé une série de lectures dans le cadre de l'évangile de Matthieu. Alors cette série n'est pas une série de prédications. J'ai invité Antoine Nuis à nous accompagner vers Pâques à travers l'évangile de Matthieu. Et pour celles et ceux qui étaient là mercredi dernier, nous étions quand même une belle assemblée, hein, je pense pas loin de 80 personnes. Antoine Nuis nous a présenté une introduction de l'évangile de Matthieu et en particulier pendant une heure, nous a restitué le contexte, les enjeux et surtout a commenté à grands traits les principales sections de l'évangile de Matthieu en son premier discours. Il y en a 5 grands discours, c'est pour ça qu'on aura 5 soirées, mais il reste 4. Alors, vous pouvez venir à la prochaine qui est mercredi, là, dans quelques jours. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, non pas pour punir ceux qui étaient absents, mais simplement parce que vous retrouverez ce qui a été dit le moment venu, si ça a été bien enregistré. On a tenté d'enregistrer, mais je ne peux pas vous garantir le résultat. Mais vous retrouverez une partie quand même de ce qui a été dit de ces saints discours si vous avez une bonne Bible d'étude. Vous savez, une Bible d'étude avec des introductions, avec des commentaires, pour vous permettre d'approfondir votre compréhension du texte, de son contexte, du péritexte. En fait, toutes choses que nous avons vues il y a quelques semaines en arrière, là aussi, avec Valérie Duval-Poujol. Alors, dans ce premier discours de l'évangile de Matthieu, qu'on appelle aussi le sermon sur la montagne, il est question de la prière. Et de cette prière, le Notre Père. Je vous propose de la relire ensemble. Quand vous priez, dit Jésus, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors, quelques mots d'introduction à propos encore du contexte dans lequel Matthieu a placé ce texte, c'est la slide suivante. J'ai rappelé que Matthieu place ces paroles de la prière dans la bouche de Jésus, dans l'ensemble de son premier discours, qu'on appelle donc le sermon sur la montagne, qui couvre les chapitres 5 à 7 de son évangile, dans lequel, comme l'a rappelé Antoine Nuis, mercredi dernier, Matthieu présente Jésus comme le nouveau Moïse, transmettant à la communauté nouvelle qu'il appelle et rassemble autour de lui l'enseignement du royaume de Dieu qu'il inaugure. Vous savez que quand Jésus commence sa prédication dans l'évangile, il commence par ces mots « le royaume de Dieu s'est approché ». Et à ceux qui ont faim et soif de ce royaume de justice, à ceux qui désirent se mettre en marche. France nous rappelait qu'ainsi traduit Shurakim à Kairos, en marche. Moi, je préfère heureux, bien entendu, ce bonheur paradoxal qui nous met en route, constitue en quelque sorte la charte de la communauté des disciples de Jésus. En même temps, et cela nous a été rappelé, qu'il nous propose un portrait de Jésus et de sa communauté. Une communauté configurée au Christ, une communauté de plus en plus ressemblante à Jésus-Christ. Marchant à sa suite, Jésus nous invite à nous placer à ses pieds et à recevoir son instruction, à méditer son portrait, ses paroles, sa conduite, et à situer toute notre marche spirituelle dans la perspective de la justice du royaume qui vient. En fait, Jésus nous invite à entrer en apprentissage de vie à ses côtés et à ses pieds. Et j'aimerais un peu faire un pas de côté d'une certaine façon pour réfléchir avec vous à la question, à la notion d'apprentissage. Alors, avec une question un peu triviale, c'est la slide suivante. Est-ce que la prière s'apprend ? Mais avant, peut-être la slide suivante nous rappelle un danger, je suis allé peut-être un peu vite, que Jésus nous dit d'erchef, d'entrée, en principe. Cet apprentissage de la vie de prière dans la perspective du royaume va impliquer, on peut aller à la slide suivante, voilà, celle-là, va impliquer, selon Jésus, de désapprendre, moi je trouve que ça c'est très difficile de désapprendre, c'est-à-dire que de se débarrasser peut-être des choses qu'on a apprises, qu'on a intégrées, qu'on a intériorisées, mais qui ne sont pas justes. De désapprendre. De se déprendre aussi du formalisme religieux, de l'esprit de religiosité, de tout ce qui revêt l'apparence de la piété, mais une piété en quelque sorte qui serait un faire-valoir, une piété qui serait quête de reconnaissance des autres. Voyez comme je prie, voyez comme je donne, voyez comme j'aide, voyez comme je suis engagé. C'est ce piège de la piété ostentatoire. Non pas pour Dieu, mais pour nous, que Jésus veut prévenir. Qu'il s'agisse de la pratique de l'aumône, dont il vient de parler plus haut, un acte de miséricorde, qui doit rester quelque chose de discret, de secret. Qu'il s'agisse de la pratique de la prière, Jésus commence par envoyer chacun dans l'intime, dans ce lieu intérieur, le plus intérieur de lui-même. Une pièce mise à part dans la maison, mais aussi symboliquement ce lieu d'intériorité, l'intime de l'intime en nous, d'où part l'élan de la prière. J'aime parler de la prière comme un élan de l'âme. Que ce soit, et il le rappellera, la pratique du jeûne qui nous relie à notre dimension corporelle, Jésus sait, il sait bien que la tentation d'une piété performance, d'une piété ostentatoire, qui se donne donc à voir comme on exhibe un trophée après avoir remporté une course, une épreuve, eh bien, ça ne guettait pas que les scribes et les pharisiens. C'est une tentation pour nous tous et nous toutes. Eh bien, naïf consisterait à croire que nous sommes épargnés de cette tentation. C'est la raison pour laquelle Jésus nous met en garde dans tous les domaines de notre vie contre le levain des pharisiens. Celui-là qui sait faire lever quasi instantanément la pâte humaine et qui sait flatter la pâte humaine et l'habiller d'hypocrisie religieuse. Vous savez, quand Jésus prononçait ces paroles, c'était pas toujours pour... c'était souvent parce qu'il voulait pointer du doigt quelque chose qui n'allait pas. Et c'était pas par plaisir, c'est parce que ça l'attristait de le voir. Je fais cette référence à The Chosen qui nous aide aujourd'hui d'une certaine manière à avoir un peu l'image des personnages réagissant. Et on voit souvent scribes et pharisiens en colère quand ils entendent Jésus, en train de s'arracher la barbe presque. Mais ils nous visent. La prière va maintenant dire Jésus, cet avertissement passé, est un lieu d'apprentissage. C'est là qu'on va se retrouver, Sylvie, je te remercie. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça s'apprend, la prière? Je crois que nous partons presque souvent du principe implicite que non, ça ne s'apprend pas. C'est presque suspect d'apprendre la prière. Alors, c'est en même temps paradoxal parce que je suppose que, enfant, si vous avez grandi dans une famille chrétienne, vous avez bien perçu, vous pouvez vous souvenir qu'on vous a éveillé à la prière, on vous a peut-être offert des livres avec ma première Bible ou mes premières prières. C'était des prières écrites. Moi, j'ai reproduit cela avec mon épouse, nous avons reproduit cela pour nos enfants, pour les éveiller à la vie spirituelle. Et nous avons prié avec eux, chacun. Et puis nous nous sommes un peu retirés pour qu'ils apprennent à prier eux-mêmes, par eux-mêmes. Donc, est-ce que ça s'apprend? Parfois, j'ai l'impression que, en pratique, notre réponse est non, ça ne s'apprend pas. Et pourtant, je suis frappé par le fait que l'enseignement de Jésus au sujet de la prière intègre la notion d'apprentissage. Qui dit apprentissage, on revient à la courroie de transmission, dit transmission. Transmission de savoir, pas seulement transmission d'expérience, certes, mais transmission de savoir. Transmission de savoir-faire. Transmission de savoir-faire-faire. C'est pas simple. Transmission de savoir-taire. Je n'ai pas dit de savoir-faire-taire. Qui dit apprentissage dit également méthode. Méthode de mise en pratique dit également terrain d'exercice. Prise de recul dans la pratique. Qui dit apprentissage dit également répétition, exercer sa répétition. Et donc, qui dit répétition dit inscrire quelque chose dans le temps. D'où la notion aussi de persévérance dans la prière ou dans l'apprentissage. Il y a même une parole de l'apôtre Paul qui interpelle une communauté en disant « Ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. » Appris Christ. Qu'est-ce que la prière nous dit en tant que lieu d'apprentissage dans nos milieux où nous nous méfions parfois de la théologie, de l'apprentissage, au sens de dire « Mais ça, ce n'est pas la vie de l'esprit. » Sous-entendu que la vie de l'esprit passerait par d'autres canaux que celui de l'apprentissage. Il me semble que c'est une erreur. Le Christ n'oppose jamais la vie de l'esprit et le fait de creuser la parole. C'est même bien le contraire que nous y trouvons. Plus nous creusons la parole et plus l'esprit, illuminant notre intelligence et nos cœurs, fait grandir le Christ en nous et la volonté du Christ en nous. Il me semble que beaucoup de nos blessures, de nos mésententes, beaucoup de nos difficultés viennent peut-être du fait que nous ne nous sommes pas parfois nous-mêmes confrontés à l'altérité de la parole, une parole qui nous dérange. La parole de Dieu dérange, elle nous gratte, elle nous déplace. Et plus je suis familier de ce dérangement de la parole, plus alors je l'entends aussi d'une manière dérangeante de la bouche du frère, de la bouche de la sœur. C'est une parole qui nous travaille. C'est une parole vivante, dynamique, et qui nous fait entrer en quelque sorte dans l'atelier du Père pour être en apprentissage. La Bible valorise l'apprentissage sans lequel aucune transmission ne peut être assurée, et y compris dans le domaine de la vie spirituelle. Nous avons besoin d'apprendre dans la vie spirituelle les uns des autres. Pas seulement par le biais des expériences qui sont légitimes et qui sont données par Dieu, mais également par cette mise en commun du discernement à l'écoute de l'Écriture. Vous savez, j'aime beaucoup la tradition juive où on étudie le texte pas tout seul, mais en communauté. Et la communauté commence là où on est deux, à pointer le texte. Et le texte est abordé comme une personne, pas seulement un personnage. On va questionner le texte. On va demander ce qu'un rabbi a dit, ce que tel autre a dit. Et voilà comment on arrive à des midrashim qui sont parfois éloignés les uns des autres. Mais ce qui compte, c'est tout ce chemin de questionnement avant de pouvoir éclairer tel ou tel aspect du texte biblique. Au cœur de la foi hébraïque, à laquelle nous souscrivons complètement, se trouve cet éloge de la transmission. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton aide, de toute ta force. On retrouve là l'une des paroles de vie qu'il y a dans les 10 paroles. L'une des clés de vie avec Dieu. Faire alliance avec Dieu, voilà ce que ça implique. De l'aimer de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force. Je n'imagine pas que dans cette proposition-là, la prière n'y trouve pas sa place centrale. Les paroles que je te donne aujourd'hui demeureront sur ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, transmission. Et dans cette transmission, je n'imagine pas que la prière soit exclue. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, ou quand tu seras en route, quand tu coucheras, ou quand tu t'élèveras. Transmission, répétition. Tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de tes villes. Si la prière qui est transmise ici, si la parole qui est transmise ici est la parole de l'Alliance, alors c'est bien qu'elle inclut cette dimension importante, cette modalité importante de la relation d'alliance entre Dieu et son peuple, qui était également la prière. Et d'ailleurs, je fais un bond au psaume 25, David pouvait dire, au psaume 25, dans une de ses prières, « Seigneur, moi j'aime bien la version ancienne, Éternel, fais-moi connaître tes voies. » Mais ici on lit dans une version un peu plus moderne, « Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. » Il se met comme un disciple dans sa prière, dans une posture d'apprentissage. « Fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. » Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Est-ce que je me représente la prière comme entrer en école au pied du Seigneur? Ou simplement un espace où je viens y déposer ma parole? Est-ce que je connais cette forme de prière où je me pose et je dis « Père, instruis-moi. » Car c'est toi le Dieu de mon salut, le Dieu qui me sauve. Je compte sur toi tous les jours. Et quand David prit cette prière, quel livre il a? Quelle parole il a pour discerner le chemin du Seigneur? Il a la transmission de l'enseignement de Moïse. Il ne dispose pas des textes en main, mais il peut s'appuyer sur cette longue transmission de la parole. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Revenons au sujet d'une autre paire, en faisant un autre pas de côté, en allant regarder dans l'évangile de Luc au chapitre 11, puisque Luc mentionne également cette prière du Pater Noster. Mais ce qui est curieux quand vous allez voir chez Luc, c'est qu'il va introduire justement une notice juste avant ce Notre Père. Luc chapitre 11, verset 1, je vous l'ai mis là. Il priait un jour, c'est Jésus. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. » Et d'ailleurs, on apprend quelque chose. Comme Jean aussi l'a enseigné à ses disciples. Nous comprenons ici que la prière faisait partie de la formation de la vie spirituelle. Nous savons par l'histoire biblique qu'il y avait des écoles de prophètes, Samuel par exemple, qui devaient apprendre à écouter et à reconnaître la voix du Seigneur. Jean qui s'inscrivait dans la dynamique prophétique a eu des disciples à qui il a dû apprendre à prier. Mais que signifiait pour eux apprendre à prier? C'était apprendre à écouter, à recevoir à travers l'écriture biblique et prophétique la pensée de Dieu. Et c'était capable d'être en mesure de dire eux aussi une parole qui soit correspondante à la pensée de Dieu. Voilà ce que ce disciple anonyme vient demander à Jésus en voyant Jésus prier. C'est beau, c'est comme si nos enfants ou nos petits-enfants, en voyant notre piété, venaient dire « Mamie, papy, apprends-moi à prier. » Je crois que le jour que ça vous arrive, vous pleurez. Ou vous êtes heureux de joie, ému de joie, pleurez de joie. « Papa, maman, apprends-moi à prier. » Ce disciple a-t-il entendu ce qui sortait de la bouche de Jésus? Ce disciple a-t-il vu quelque chose en Jésus? Mais en tout cas, le texte ne nous dit pas ces silences. Ce que le texte nous dit, c'est que voyant le maître prendre le temps de la prière, il eut envie, lui aussi, de comprendre, de découvrir ce lieu d'intimité. Seigneur, apprends-nous à prier. Enseigne-nous à prier comme Jean l'enseigne à ses disciples. Alors Jésus, si Luc apporte ici un point de vue complémentaire, veut donc répondre à cette demande légitime. Faisons quelques remarques. Jésus ne dit pas, ben c'est simple, t'as qu'à ouvrir la bouche. Il ne dit pas non plus, oulalalalala, que c'est compliqué. Il ne fait pas ça. Il dit pas, je sais, je vais écrire un livre de recettes de prière. Vous savez, ça se vend très très bien dans le développement personnel. Pour chaque problème humain, il faut toujours se développer, vous voyez. Il y a toujours un livre, comment régler ce problème en 3 points, en 5 étapes, etc., etc., etc. Des rayons entiers sont remplis. Jésus ne fait pas ça. Il ne dit pas non plus, oula, si vous n'avez pas fait 5 années en faculté de théologie, c'est compliqué. Non. Non, je ne fais pas ça. Il accueille cette demande, donc il la légitime, j'entends. Et il va passer ici chez Matthieu, pour revenir, de la prière personnelle, intime, quand tu pries, du tu, va dans ta chambre et tout. Et maintenant, il s'agit de donner une parole sur la prière communautaire. Quand vous priez. Et c'est peut-être pour la vie communautaire et la dimension communautaire de la prière qu'il est utile d'avoir appris à prier, j'ai envie de dire, dans sa chambre, au pied du Seigneur. Peut-être que c'est là le premier lieu où le Seigneur nous donne confiance de lui parler. C'était le premier lieu où le Seigneur nous apprend aussi à écouter. Et cet apprentissage de la prière communautaire suppose justement que quand on est les uns et les autres, pour prier ensemble, ça s'apprend d'une certaine façon. On apprend à s'écouter, on apprend à discerner, on apprend à se réjouir de l'action de grâce d'un frère, d'une sœur, on apprend à intercéder en église, ensemble, on apprend à exercer la foi, on apprend à épancher le cœur de l'église devant le Seigneur, sous toutes ses formes. Revenons à Matthieu. Oui, juste avant. Je trouve, pardon, c'est un petit commentaire que je fais ici, une glose d'une certaine façon. Je trouve que nous protestants, et particulièrement protestants évangéliques, parfois nous connaissons peu notre histoire. En préparant cette prédication, j'ai ressorti un livre dans les œuvres de Luther, Martin Luther, le réformateur, et je relisais son grand catéchisme, écrit dans les années 1518, 1519. Non, la réforme, c'est 1517, une date, vous voyez, aux alentours de 1528. Il a déjà fait un grand catéchisme, un petit catéchisme. Et d'ailleurs, on doit à Luther cette notion de catéchisme. Et pour lui, qu'est-ce qu'il y met? Il y met, dans le catéchisme, l'instruction de base à destination de toute personne qui embrasse la religion chrétienne, père de famille, paysan, élite, etc. Et pour lui, quelle est cette instruction de base ? Les 10 paroles, la foi, autrement dit le symbole des apôtres, credo, et le Notre Père. Tant et si bien, j'ai vu un geste qui m'invite à rentrer en dialogue, si vous voulez, sinon après. Tant et si bien que dans ces trois textes-là, il dit, se trouvent les vérités fondamentales, une synthèse des vérités fondamentales que le chrétien croit. Ça faisait une sorte de catéchisme qui était enseigné avant le baptême de ceux qui venaient par la suite, c'est-à-dire les catéchumènes, c'est comme ça qu'on les appelait, ceux qui se préparaient au baptême. En gros, ça voudrait dire que, alors sans dire que le baptême c'est une culture générale de connaissances, c'est pas ça le prérequis c'est d'avoir vécu cette rencontre fondamentale avec le Christ. C'est ça. On est baptisé parce qu'on a réalisé l'amour du Christ dans nos cœurs. On s'est reconnu pécheur, on se repent et on accepte de suivre Jésus en disciple, n'est-ce pas ? Mais c'est quand même important de considérer que le christianisme, ce n'est pas juste la somme de nos expériences subjectives. C'est le contenu objectif aussi d'une foi que nous professons. Et cela ne dépend pas de nous ou d'une église particulière. Et que même les pères réformateurs avaient le souci qu'au sein du peuple de Dieu, il y ait un minimum, un socle commun de vérité qu'on ne réinterprète pas à souhait. Et que ces vérités considéraient que les 10 paroles en faisaient partie, que le credo, ce qu'ils appelaient la foi, en faisait partie, que le Notre Père, avec ses 6 affirmations, en faisait partie. Je suis souvent un peu attristé de voir que c'est des textes qui nous semblent lointains. C'est très difficile, en notre époque en tout cas, de trouver un chrétien qui sache dire les 10 paroles, qui sache dire le credo, qui sache dire le Notre Père. Alors ça n'enlève rien à sa foi, à sa sincérité, mais ça peut nous questionner quand même sur qu'est-ce qui reste comme fondement de notre foi une fois qu'on enlève nos expériences personnelles. Sur quoi est-elle appuyée, enracinée ? Alors sur l'écriture, bien entendu, tant mieux, mais ces vérités-là, justement, sont enracinées dans l'écriture. Alors revenons à Matthieu. Jésus nous donne encore 2 mises en garde dans son école de prière. Attention, FBI, fausse bonne idée. C'est une abréviation pour moi. FBI, fausse bonne idée. Lorsqu'il lui a achevé, donc on lui demande, Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus va dire ici une phrase où il souligne en forme négative un impératif. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens, ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut. Ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Il ne faut pas entendre ça comme fermer le caquet des églises où on prie à haute voix, non. Il ne faut pas entendre ça comme une entrave à ce qu'il y a de beau dans l'église aussi, que nous puissions prier et que certains puissent exprimer leur cœur. La preuve, souvenez Anne, elle est allée au temple et elle avait beaucoup de choses à dire à Dieu. Et elle a épanché son cœur. C'est vrai que le grand prêtre, à un moment donné, je ne sais pas s'il avait faim, le texte ne le dit pas, il est venu dire, femme, oh, ça fait un moment que vous êtes là, allez cuver le vin ailleurs, parce qu'il trouvait que ce n'est pas normal. Mais elle dit, non, c'est mon cœur qui est plein. Vous voyez, il y a de la place et de la légitimité pour des prières, et parfois même des prières qui peuvent prendre un peu plus de temps que ce qu'on attendait. Mais ce que le Seigneur veut pointer ici, ce ne sont pas les paroles en tant que telles ou leur longueur, mais les représentations que cela véhicule. Une représentation inappropriée de qui est Dieu. Un Dieu qui serait perçu comme un appareil à jetons. Vous savez, moi j'aime bien aller à la foire de temps en temps avec mes enfants, beaucoup moins maintenant à cause de mes problèmes de cervicale. J'aimais bien aller conduire les auto-tamponneuses. C'est magnifique parce que plus tu donnes l'argent, plus on te donne des jetons. Et le pouvoir de garder la voiture préférée, c'est les jetons. Peu importe si ça s'arrête au bout de 3 minutes, mais tant que vous mettez le jeton, Vous êtes exaucé, ça repart. Ça repart. Et Jésus veut un peu corriger cette représentation d'un Dieu qui serait investi comme un appareil à jetons. Vous savez, il suffit de rabâcher mes prières, d'introduire et d'introduire et d'introduire. Au bout du compte, quand même, j'aurai la garantie d'être exaucé. Il dit que ça, c'est une représentation de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils s'imaginent. Vous voyez, on est dans l'imaginaire. On est dans une construction d'un imaginaire. Ils s'imaginent que c'est parce qu'ils rabâchent et c'est parce qu'ils insistent qu'ils vont réussir en quelque sorte à faire changer Dieu. Ils font du judo verbal avec Dieu. Ils font du judo. Ils imaginent qu'à un moment donné, il sera tellement lassé qu'on lui rabatte les oreilles qu'il va finir par céder. Et Jésus dit non, ce sont les païens qui pensent comme ça. Parce qu'ils ne le connaissent pas comme je vais vous le faire connaître. Et là, il dit clairement, il ferme une porte. Ne les imitez pas. Il ne dit pas, voyez si c'est... Non, ne les imitez pas. Et pourquoi on ne doit pas les imiter? Il le dit dans la suite du verset. Parce que votre Père Céleste sait ce qu'il vous faut avant même que vous lui demandiez. Ah! C'est parce que à nous, il nous a donné le privilège de le connaître, non pas comme une machine à distribution, comme une machine à jetons, mais il nous a donné le privilège de le connaître comme un père. Nous n'avons pas besoin de faire des caisses. Il nous connaît. Il connaît nos besoins. Alors la question suivante ne manque jamais quand on aborde ce sujet. Alors pourquoi donc prier, puisque Dieu sait d'avance? Au moins trois raisons, il y en a plus. D'abord, c'est parce que prier, c'est plus que demander. Si on comprend la prière comme uniquement la grande liste de demandes avec laquelle on s'approche devant Dieu, effectivement, on se dit qu'il faut jeter cette liste puisqu'il la sait d'avance. Mais prier, c'est plus que demander. Dans ce texte, Jésus insiste que ce soit dans le cadre de la prière individuelle et que ce soit dans le cadre de la prière communautaire. Il nous renvoie à une relation. Entre dans le lieu secret intime. Entre en communion avec ton Père. C'est le lieu du cœur à cœur avec le Père qui se révèle à moi. Et ici, rappelons-nous que le mot que Matthieu va mettre là, c'est Abba. Quand vous priez, dites Abba. Père, notre Père. Je sais que beaucoup sont parfois un peu critiques de la transposition dans notre contexte culturel, papa. Parce que ça semble très familier. Abba, papa, papa d'amour. À condition que cette appellation papa ne devienne pas une familiarité qui efface la nécessaire distance qu'il y a entre le Père et nous. Et alors, la préscience du Père, le fait que le Père connaisse d'avance ce que nous voulons lui demander, n'implique pas selon l'Écriture et n'implique pas selon Jésus qu'il n'y aurait plus de place pour nos requêtes. Au contraire, Jésus dans Matthieu 7 dit « Demandez et il vous sera donné ». Il n'est pas contradictoire du tout, mais il essaye de remettre les choses à l'endroit. Dieu n'est pas le petit coursier que nous sollicitons pour aller nous faire ci, pour aller nous faire ça, pour aller intervenir là-bas, au feu les pompiers, Seigneur, va là-bas, etc. Ce n'est pas ça notre Père. Ce n'est pas ça, il n'est pas tel. Il sait. Et ce qu'il veut vivre, il veut nous voir sur ses genoux, à ses pieds, prendre ce temps de cœur à cœur et de un à un. Alors, seulement, une fois qu'il a corrigé ceci, Jésus peut introduire cette prière que je vais synthétiser. Cette prière du Notre Père qui a été beaucoup commentée regroupe 6 ou 7 demandes selon le découpage qu'on peut en faire. Alors, je regroupe et je résume ici de manière très synthétique les 3 premières demandes. Et on peut voir presque un parallèle avec les 10 paroles dans la forme. Vous savez que quand vous avez les 10 paroles, la première table nous tourne d'abord vers la personne de Dieu. Et la seconde table vers nous-mêmes et les relations sociales. Eh bien, c'est un peu ce qu'on retrouve ici dans la structure de l'évangile de Matthieu. La première, la deuxième, la troisième demande nous tourne d'abord vers Dieu. Comme si cet atelier d'apprentissage qu'est la prière nous apprend davantage sur qui est Dieu. En fait, ce n'est pas lui qui a besoin qu'on lui apprenne tout ce qui ne va pas bien dans nos vies. Il y a de la place pour ça. Mais la relation intime et de cœur à cœur à laquelle nous invite la prière, à laquelle nous fait entrer la prière, ne s'appuie pas d'abord sur nous. Elle ne part pas d'abord de nous, mais elle prend comme point d'appui la personne et le cœur du Père. Je m'approche de toi, Père, connaissant qui tu es. Et ma première préoccupation, alors que je viens vers toi, c'est que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit reconnu comme saint, c'est-à-dire ta personne. Tu es le Dieu trois fois saint. Ça veut dire que, tout comme Moïse a dû apprendre, vous savez, au moment de la révélation du buisson ardent, qu'il se tenait sur un lieu saint, parce que la présence du Dieu trois fois saint lui était manifestée. De même, en entrant en prière, je ne viens pas devant un pote. Je ne viens pas devant un pote. Même s'il y a un langage familier entre nous, et même si on a la liberté glorieuse des enfants de Dieu, puisque la Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de peur. Mais ne confondons pas ne pas avoir peur du Seigneur, de notre Dieu, et en faire un pote. Il est le Dieu de l'univers. Et devant lui, le grand Ésaïe tombe à genoux et dit « Malheur à moi, je suis perdu, mes yeux ont vu le Saint. Et qui suis-je moi aussi pour ne pas tomber devant lui, pour ne pas être saisi de cette sainte révérence qui me rappelle que Dieu est Dieu et moi je dois rester à ma place, qu'il est le Père, je peux m'approcher de lui le cœur confiant, mais pas dans la familiarité. Que son nom doit être honoré, que son nom doit être sanctifié. L'adjectif grec, agios, saint, peut nous renvoyer quand même à un équivalent, la Septante l'avait perçu en traduisant l'Ancien Testament dans le grec, où la notion de gloire, kavod, a été traduite aussi avec un équivalent de sainteté. Que ton nom reçoive, que j'honore ta personne, que je donne du poids à qui tu es. Et avec ou sans moi, le nom de Dieu a déjà du poids. Mais qu'est-ce que ça veut dire que j'entre en disant que ton nom soit. Notons la forme passive. Ce n'est pas moi qui sanctifie le nom du Seigneur, que son nom soit sanctifié à travers aussi. Il est déjà saint. Je peux pas rajouter quelque chose à la nature sainte de Dieu. Mais je peux me laisser transformer de gloire à gloire à son image par le Seigneur l'Esprit. Pour que voyant son Église, on dit voilà une communauté qui cherche à sanctifier le nom de celui qu'elle loue, de celui qu'elle prie, de celui qu'elle adore. Dans nos louanges, dans nos prières, dans l'enseignement. Que ton règne vienne, ce règne dont il est question dans le contexte, relisez les béatitudes, c'est un règne de justice, ceux qui ont soif de la justice. C'est un règne de paix, c'est un règne de consolation, ceux qui pleurent. C'est un règne de lumière, de vérité. Et le règne a déjà commencé en Jésus, mais nous ne voyons pas encore qu'il règne totalement. Et les événements dans lesquels nous sommes plongés, et l'actualité de notre monde nous montre que le règne de paix n'est pas encore consommé. Que le règne de justice n'est pas encore totalement consommé. Et voilà pourquoi l'Église peut dire que ton règne vienne. Mais ce règne de paix, de vérité, de justice vienne aussi dans ma vie. Ce règne de paix pour faire aussi la paix avec mon Créateur. Et les uns avec les autres. Règne de justice. Où en sommes-nous ? Dans la soif de justice. Il y a une petite décennie en arrière, les églises étaient portées par l'élan du défi Miché, les objectifs millénaires pour le développement avec cette exigence de la justice. Où en sommes-nous ? Dans ce plaidoyer pour que vienne ce règne de justice, où en sommes-nous ? Que ta volonté soit faite. Sur la terre, comme elle est déjà au ciel. Il n'y a qu'un qui a voulu la contester au ciel. Il a été précipité en bas. C'est Satan. Mais au ciel, elle est faite. Mais c'est une prière pour que sa volonté soit aussi. Mon cœur, dans la prière, soit éduqué à ne chercher qu'une chose, comme le Christ dans le jardin de Gethsémané. Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Et parfois, c'est avec des larmes qu'on prie ça. Presque toujours. Renoncer à soi-même, à sa volonté propre, pour ne faire que la volonté du Père. Et les trois autres demandes, ou les quatre, suivant comment on découpe, nous tournent maintenant vers nous pour nous montrer qu'il y a de la place dans la prière pour nos requêtes. Mais d'abord, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez d'abord ce qui est sur le cœur du Père. Et ensuite, toutes les autres choses vous seront données, en commençant par la demande numéro 4, notre pain quotidien. Alors, on a parfois tendance à spiritualiser ça, en disant, ouais, c'est spirituel, c'est ce qui nourrit l'âme et tout. Sans doute qu'il y a aussi ça, dans un sens second, mais de manière très primaire. Peut-être nous avons du mal parce que peut-être que la plupart d'entre nous, on sait en rentrant ce qu'on va manger aujourd'hui, toute la semaine et au jour de Pâques. Le gigot est déjà là. Ou la souris d'agneau, on sait déjà comment on va faire. Peut-être. Mais je peux vous promettre qu'il y a encore aujourd'hui, en 2026, plein de chrétiens qui prient ça tous les jours. Et quand ils prient que ton « donne-nous notre pain quotidien », ils ne savent pas encore comment ils vont l'avoir. Et c'est d'abord pour nous nourrir. C'est aussi primaire que le peuple de Dieu, lorsqu'il s'est retrouvé au désert et qu'ils avaient faim, et que Dieu leur a donné la manne. Et la manne était leur pain pour ce jour-là. Quelques petits malins, bien sûr, ont voulu faire une sorte de PEL, de plan d'épargne du lendemain, vous savez. Mais ça a pourri. Ça a pourri. Pourquoi ? Parce que la prière nous appelle aussi à entrer dans une relation de dépendance par la foi au Père. C'est le pain d'aujourd'hui. Et c'est parce que c'est le pain d'aujourd'hui que je demande la grâce d'aujourd'hui, que Jésus peut me dire, alors si c'est la grâce d'aujourd'hui, demain prendra soin de lui-même. C'est dans le même passage sur les inquiétudes vers la fin. Bien entendu, ce pain peut s'étendre à d'autres significations, je ne vais pas tout dérouler, mais un autre besoin est spirituel. Si ce besoin de la quatrième demande concerne nos besoins physiques, en quelque sorte, il y a la question de nos relations. Pardonne-nous nos offenses. Ici, le grec a le mot « dette ». Remets-nous nos dettes, comme nous remettons aussi la dette des autres. Ça concerne nos relations. La question du pardon, comme restauration de ce qui, dans la relation, est cassé, de ce qui, dans la relation, est blessé, de ce qui, dans la relation, fait souffrance. La prière devient le lieu où j'apprends à laisser Dieu me retaper, me restaurer comme on l'a chanté. Et où j'apprends à lâcher prise de cette offense subie comme de cette offense causée. Enfin, dernière, ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est là qu'on a soit 6 demandes, soit 7, suivant les commentaires. Luther conteste 7 demandes parce que cette dernière demande, il envoyait en deux temps. Ne nous laisse pas entrer en tentation, 6e demande. Puis délivre-nous du mal, 7e demande. J'ai plutôt tendance à y voir ici une demande en deux propositions. Le sens du verset suggère, ne nous soumets pas à la tentation. Vous savez, peraimos en grec, c'est à la fois l'épreuve, au sens du test de la foi, mais ça peut être également la tentation au sens de trébucher. Et ici, il me semble que Jésus nous dit, ne nous soumets pas à ça, ne permets pas qu'on tombe dans la tentation. Et le contexte immédiat, si on regarde, Jésus lui-même a été confronté au malin. C'est Matthieu 4. Et il a été soumis, puisque Matthieu écrit que l'Esprit pousse Jésus au désert pour y être tenté. Mais c'était Jésus. Et pour nous, il dit, lui qui a connu ça, une immersion dans le monde du malin, il nous dit prier et demander au Père de ne pas vous laisser entrer en tentation, de peur que nous ne succombions. C'est un acte d'amour incroyable, de protection de notre intégrité spirituelle. Nos besoins ne sont pas seulement le manger, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais également de ce qui vient de la bouche du Seigneur. Et ici, le Seigneur nous dit, priez pour ne pas entrer en tentation. Luttez avec la tentation. Luttez en priant. Résistez et parfois fuyez. Dans un monde où la volonté de Dieu n'est pas encore parfaitement accomplie, et alors que nous attendons encore la plénitude de son règne de justice, de sa paix inaugurée en Christ, frères et sœurs, l'Église, notre Église, toute l'Église du Christ, est encouragée à demeurer une sentinelle en prière. C'est le dernier point conclusif. Et les apôtres ne se lassent pas de nous le rappeler. Cet enseignement n'avait pas pour objectif de nous intimider quant à la prière, mais de nous y accompagner. Dans cet atelier de prière, quand nous ouvrons quelques tiroirs, nous retrouvons ces exhortations et la liste n'est pas exhaustive. Je voudrais juste qu'on les entende à nouveau. Éphésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps et dans les temps dans lesquels nous sommes, par l'Esprit, non pas par nous-mêmes, pas à partir de nous, toujours à partir de Dieu, par l'Esprit qui nous donne sa prière, toutes sortes de prières et de supplications. » Alors moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de différents types de prières, mais simplement souligner que le Seigneur veut nous encourager, même s'il le sait, par son esprit, à faire monter toutes sortes de prières et de supplications. Et il ajoute, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, c'est-à-dire pour tous les membres du peuple de Dieu. Et en 1 Timothée 2, versets 1 et 2, il nous dit, j'exhorte donc avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Un élargissement, pas seulement pour tous les saints, mais pour tous les hommes. Pour les rois, et ils en ont bien besoin aujourd'hui, les autorités. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Ne vous inquiétez de rien, Philippiens 4, versets 6 à 7. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Frères et sœurs, oui, la prière, ça s'apprend, et la Bible valorise cet apprentissage. La prière, c'est ce qui nourrit aussi notre relation filiale avec Dieu, notre Père. Elle est le lieu du cœur à cœur, où son cœur battant transforme nos vies. La prière et l'annonce de l'Évangile sont les deux tâches qui sont au cœur du ministère de l'Église du Christ, appelée plus que jamais à être cette sentinelle dans la prière. Amen.